autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour et bienvenue à tous. Comment reconnaître les plantes dans la nature ? Quelles sont les grandes familles de végétaux ? Qu'est-ce que la systématique et la floristique ? La botanique est une science ancienne, née 4 siècles avant Jésus-Christ. Quelles étapes a-t-elle franchi ? Comment s'est-elle libérée de la médecine ? Comment est-elle devenue une science d'observation, puis une science descriptive et biologique ? Quand sont nés les herbiers ? Quel fut le rôle des savants explorateurs ? Comment la botanique est-elle devenue classificatrice ? Quel fut l'apport de Théophraste, de Linné, des frères Jussieu, de Lamarck ou encore de Darwin ? Comment la botanique a-t-elle éclaté au XXe siècle en de nombreuses disciplines spécialisées ? Autour de la question « Pourquoi la botanique ?» La réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Joëlle Magnangonze.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de biologie végétale, conservatrice au musée et jardin botanique du canton de Vaud en Suisse et vous publiez Histoire de la botanique chez Delachaux et Niestlé. C'est une réédition augmentée d'un ouvrage ancien. Il y avait encore des lacunes à combler. Pourquoi réaugmenter cette édition ?
En fait, entre la première et la deuxième édition, oui, j'ai essayé d'obtenir quelques pages supplémentaires pour compléter le discours. Mais pour la troisième édition, non, il ne s'agit que de petites corrections ou ajouts d'illustrations.
Et il faut préciser que c'est un très beau livre avec de magnifiques illustrations. Quel était votre angle d'approche ? Vous intéressez beaucoup, bien sûr, à l'histoire de la botanique en termes de date, de chronologie, mais aussi au lien entre science et société, science et culture, philosophie. Vous intéressez aussi beaucoup au voyage, à l'économie.
Oui, en fait, je pense que c'est la manière d'aborder l'histoire des sciences qui est la plus intéressante, c'est de voir justement l'impact de la société, de la religion, des courants philosophiques, mais également des progrès des techniques sur des sciences comme les sciences naturelles, en particulier la botanique. C'est très étonnant parce qu'on pense que cette science est assez marginale et en fait on se rend compte que, par exemple, le fait d'avoir une société esclavagiste à l'époque grecque, eh bien ça provoque ça a des conséquences sur l'évolution de cette science, sur les connaissances qu'on en a.
Alors, à quand remontent les débuts de cette histoire de la botanique ? Écoutez le biologiste Jean-Marie Pelt, il l'a fait remonter à Théophraste, on est 3 siècles avant Jésus-Christ.
Chez les Grecs, chez les anciens, les plantes médicinales. Ce sont les plantes qu'on utilise pour guérir. Il n'y a pas une botanique qui aurait pour objet d'étudier la plante pour elle-même. Alors les grands de la pharmacie de l'époque, les Claude Galien ou les Dioscorides, nous ont donné des listes de plantes avec les indications thérapeutiques de ces plantes. On peut faire peut-être un aparté sur Théophraste, qui a été le disciple d'Aristote au lycée à Athènes, et qui lui s'est intéressé aux plantes pour elles-mêmes, et n'a pas cherché les propriétés pharmaceutiques, il a essayé de comprendre comment les plantes fonctionnent. C'est Aristote qui avait travaillé sur les animaux, qui avait conseillé à son élève d'étudier lui plus particulièrement les plantes, et il est, je crois, le père de la botanique.
Est-ce qu'il y a deux périodes, un avant et un après Théophraste ?
Oui, bien sûr. Théophraste, comme le dit Monsieur Pelt, est le personnage, le père de la botanique. Malheureusement, les connaissances qu'il a pu acquérir tout au long de son activité ont été perdues par la suite, pour différentes raisons. On va peut-être pas rentrer dans tout ça, parce que c'est essentiellement des problèmes de société, justement, ou de religion. Mais il est bon de savoir que Théophraste, en fait, était sans doute le seul philosophe grec qui s'est intéressé, justement, aux plantes pour elles-mêmes. Et il avait construit un système, par exemple, de dénomination tout à fait logique des végétaux, que finalement Linné et ses prédécesseurs et les successeurs de Linné ont repris, mais qui avait été perdu pendant plus de 1200 ans.
Pourquoi y a-t-il un espèce de trou noir après Théophraste dans l'histoire de la botanique ?
Mais justement, ce sont essentiellement des raisons de société, d'évolution de la société, de l'impact de la religion, évidemment.
L'obscurantisme.
L'obscurantisme, absolument. Et puis, il a fallu attendre la Renaissance pour que la botanique renaisse.
Donc, mais il se passe quand même des choses hors d'Europe.
il se passe des choses, effectivement, hors d'Europe, notamment pendant la période, le développement de l'islam au Proche-Orient. On voit également des travaux en Chine. Mais, si vous voulez, en tout cas, tout ce qui est du niveau du Proche-Orient, en fait, les Syriens, les Arabes ont traduit les travaux des Grecs, notamment de Théophraste. Et c'est devenu la base, en fait, de leur connaissance médicale et scientifique. Et ce n'est que par la suite, après, par la traduction en langue latine, que ces données nous sont parvenues en Europe.
Alors, on arrive à la période du Moyen-Âge. On peut citer au XIIe siècle Hildegarde de Bingen, abbesse et fondatrice du couvent des bénédictins de Rupertsberg. Et elle est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Écoutez une lecture d'un de ses textes.
Le blé est chaud, rempli de richesses, si bien qu'il ne manque de rien en lui. Et quand on en fait de la franche farine, le pain que l'on fabrique avec cette même farine est bon pour les bien portants comme pour les malades. Et il fournit à l'homme de la chair de qualité et du sang de qualité. Hildegarde de Bingen, Les plantes médicinales, 12e siècle.
Quelle est l'importance de ces textes d'Hildegarde de Bingen ?
Écoutez, je dois vous dire tout de suite, je suis ravie que vous ayez choisi Hildegarde de Bingen.
C'est une femme.
Voilà, c'est une femme, mais c'est une des deux seules femmes que j'ai malheureusement pu introduire dans cette histoire de la botanique, parce que effectivement, c'est une science qui était dominée par le genre masculin. Alors, Hildegarde de Bingen, elle est intéressante parce que c'est une des rares auteurs du Moyen Âge qui ne se contente pas de copier ce qui a été dit avant elle. Elle introduit dans ses textes des observations personnelles, des remarques sur l'usage des plantes, mais également parfois des remarques sur leur manière de pousser, sur leur morphologie, etc. Donc on peut dire que elle a une approche qui est moins obscurantiste que d'autres, et en ça, elle fait partie justement de ces petites étincelles qu'on voit, qui jalonnent le Moyen-Âge et qui nous permettent de dire qu'à partir du XIIIe et du XIVe siècle, eh bien, il y a une petite renaissance de la science qui apparaît. Mais, comme vous le voyez, elle est très limitée, elle est très locale, et c'est pas encore du tout le début de la Renaissance.
Et est-ce qu'on a une idée du nombre de plantes qui étaient répertoriées à l'époque, au Moyen-Âge, à peu près?
Écoutez, je n'ai pas de chiffres exacts, mais par exemple, je me rappelle que pour Avicenne, donc qui était quand même un médecin important, un pharmacien pardon important, il répertoriait plus de 750 drogues dans son canon de médecine, dont 600 plantes. En Europe occidentale, donc chez nous, on parle en général d'environ 500 espèces différentes. Tout en sachant qu'à l'époque, à cette époque-là, on mélange totalement les espèces indigènes de ce que Dioscoride avait indiqué dans ses travaux, dans sa matière médicale. Parce que, un petit rappel, à l'époque du Moyen-Âge, on est persuadé que comme les maladies sont générales, si vous voulez, eh bien, le remède doit lui aussi exister partout. Donc, on imagine que les plantes que Dioscoride a mentionné dans sa matière médicale poussent également en Europe, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et ça va être la cause principale d'une confusion énorme dans les écrits du Moyen-Âge, puisqu'on va donner à des plantes européennes des noms de plantes du Proche-Orient.
Alors, il y a un nouvel essor de la botanique à partir de la Renaissance, et cet essor, vous le mentionnez dans votre livre, passe aussi par les liens avec les artistes qui dessinent les plantes. On peut penser à Léonard de Vinci, mais aussi à des gens comme Dürer.
Oui, absolument. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la Renaissance, elle a commencé par le dessin. Et dans les premiers ouvrages de la Renaissance de la botanique, c'est-à-dire des ouvrages du milieu du XVIe siècle, c'est surtout au niveau du dessin qu'on voit qu'il y a une évolution de la pensée. Parce qu'au niveau du texte, on reste toujours au niveau du Moyen-Âge. Les auteurs se contentent de répéter ce que Dioscoride avait dit avant eux, ou Galien, ou d'autres. Donc, c'est encore des descriptions totalement fantaisiste entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de description morphologique, ce sont des descriptions des effets ou des qualités de la plante. Vous connaissez le fait de dire qu'une plante est chaude ou froide, etc. Ça n'a pas vraiment de signification scientifique. Néanmoins, c'est répété, recopié durant tout le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle. Il y a encore des auteurs qui parlent de cette manière des végétaux. Et ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle, véritablement, qu'il y a une modification du contenu des textes.
Ouais, parce que la science devient descriptive et on comprend vraiment les vertus de l'observation.
Absolument, tout à fait.
Et la renaissance de la botanique passe aussi par les premiers jardins botaniques. On écoute Philippe Catherine, jardin botanique sur RFI.
Nous avions rendez-vous au jardin botanique en pensant à vous. J'attendais encore, mais je ne savais pas que vous étiez mort. Au jardin botanique, la lumière était blanche, tout sentait la flore, et c'était dimanche. Mais je ne savais pas que vous étiez mort. Je pense encore à vous. Au jardin botanique, aujourd'hui encore, je vous entends partout, comme si je n'avais jamais su que vous étiez mort.
Catherine, jardin botanique sur RFI, Joëlle Magnangos. Qu'en est-ce ces premiers jardins botaniques et quelle est leur utilité pour la connaissance des plantes?
En fait, les premiers jardins botaniques en Europe datent du milieu du XVIe siècle, mais on sait qu'il y avait déjà un jardin botanique à Tolède, au sud, donc à l'époque islamique. Donc les premiers jardins botaniques, on peut les dater entre 1545 et 1550. Pas mal d'historiens de la botanique ou des sciences se chamaillent. J'ai personnellement reçu des remarques de certains auteurs me disant « Mais non, le jardin d'Heidelberg n'a pas été fondé telle date, etc. » En fait, le problème est le suivant, c'est que ces jardins étaient en général des jardins attenant à des facultés de médecine dans les premières universités. Et il est difficile de décider quand un jardin médicinal devient un jardin botanique. C'est simplement à ce niveau-là qu'on a un problème de datation. Donc, toutes ces querelles de date, finalement, sont assez stupides. Ce qui est important de savoir, c'est que ces jardins botaniques sont très utiles pour l'enseignement. C'est surtout ça qui est important, qu'ils soient médicinaux ou botaniques. Au départ, on cultive essentiellement des plantes médicinales, puisque c'est attenant à des facultés de médecine. Mais après, quand la botanique se sépare de la médecine et qu'elle devient en fait une discipline à part entière, ces jardins botaniques vont contenir des plantes qui n'ont pas d'utilité médicale pour l'homme, mais qui sont intéressantes pour elles-mêmes, pour les caractéristiques morphologiques par exemple qu'elles présentent. Et à ce moment-là, on parle donc d'un jardin botanique et il est utile pour l'enseignement. Donc ces jardins botaniques vont, les premiers donc sont ceux de Pise, Padoue et Florence. Et par la suite, eh bien, c'est tout le sud de l'Europe qui va se doter de jardins botaniques à Montpellier et partout, et ensuite vers le nord. Conjointement à ces jardins botaniques, ce sont des chaires de botanique qui vont se développer.
Et à la même époque naissent les tout premiers herbiers. Écoutez Cécile Opic, chargée de conservation des collections dites particulières de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle. Qu'est-ce qu'un herbier ?
Un herbier, c'est principalement une plante fixée sur du papier. En fait, quand on fait de la recherche sur ces objets-là, on a besoin d'avoir des informations qui sont associées à ces plantes, à ces végétaux. En général, c'est sur des étiquettes. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les données de récolte. Qui a récolté la plante? Où est-ce qu'on l'a récoltée? À quelle date on l'a récoltée? C'est vraiment très, très important pour qu'un herbier ait une valeur scientifique. Et le fait que la plante soit fixée sur du papier, présentée comme ça, ça permet de garder les choses solidaires et vraiment que les herbiers gardent leur valeur scientifique. Alors après, les plantes, les végétaux peuvent être présentés de façon différente. Bon, ça, c'est principalement des plantes à fleurs, mais vous pouvez avoir aussi des choses qui sont présentées dans des enveloppes, dans des sachets, dans des boîtes. Alors, on a des plantes soit entières quand les plantes sont petites, quand ce sont plutôt des herbacées. On a des morceaux de plantes quand on a des arbres. C'est pas forcément évident de mettre un arbre en herbier. Et puis, des fois, on a des gros fruits.
Alors, mettre des plantes en herbier, ça veut dire répertorier, ça veut dire déjà classer. Le XVIIe siècle, c'est là que commence vraiment la classification.
Oui, bon, l'herbier est né au milieu du XVIe siècle.
Voilà.
Et puis, effectivement, il était très important parce que sans l'herbier, la botanique n'aurait pas pu se développer. Et c'était un outil pédagogique, mais c'était aussi un objet de collection. Et c'est grâce, justement, à ces collections d'herbiers que la systématique a pu se développer. C'est effectivement un des outils principaux de la botanique.
Qui sont les grands savants, si on reste au XVIIe siècle, qui sont les grands savants qui ont fait progresser la classification? On peut parler de Tournefort, par exemple.
Oui, Tournefort, qui... Bon, avant Tournefort, il y en avait d'autres, mais effectivement, Tournefort, en France, était important, puisqu'il était le principal responsable du jardin des plantes. Et il a... comme beaucoup d'autres botanistes, essayer de construire un système de classification des plantes qu'il a basé sur la corolle. Alors bon, c'est un choix délibéré pour lui. Il a décidé que c'était le nombre de pétales qui était important. C'est ce qu'on appelle un système essentialiste. Il a choisi un caractère essentiel pour décrire classer tous ces végétaux. Il est évident que ça va donner un système de classification aisé à utiliser, mais qui ne représente absolument pas la réalité naturelle du monde végétal. Ouais. Et de manière concomitante, en fait, d'autres systèmes de classification dits naturels vont être créés par d'autres botanistes. Et peu à peu, à la fin du 18e, on va effectivement arriver en 1789 un système de classification naturelle fait par Antoine Laurent de Jussieu, qui a été vraiment à l'origine de la classification moderne que nous utilisons.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur Linné, sur les frères Jussieu. Simplement, si on parle de sexe des plantes, de questions de reproduction, est-ce que c'est aussi au XVIIe siècle que ça commence à se mettre en place?
Alors, l'histoire de la découverte et de l'acceptation de la sexualité chez les végétaux est sans doute un des sujets les plus intéressants dans l'histoire de la botanique. Parce que il y a des problèmes philosophiques. Vous savez que la fleur...
Religieux aussi, forcément.
Religieux, philosophique. Il y a également des problèmes techniques, parce que observer ce qui se passe à l'intérieur des cellules, au centre d'un ovaire qui est lui-même entouré de tissus, c'est très difficile. Et avant qu'on ait compris de quoi il s'agissait exactement, il a fallu plus de 2 siècles de recherche. Entre les premières expériences et observations de Camerarius en 1583 jusqu'à la découverte de la fécondation et de la compréhension de ce qui se passait, il a fallu plus de 2 siècles. Ouais.
Alors, on va parler tout à l'heure des travaux de Linné, de Buffon, de Lamarck. Le 18e siècle est un grand tournant dans l'histoire de la botanique, et le 19e aussi, bien sûr. Joëlle Magnangos, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations sur RFI. Il me reste quelques secondes pour citer le titre de votre livre, Histoire de la botanique, paru chez Delachaux et Niesley. À tout de suite.
Une semaine d'actualité autour de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Pourquoi la botanique ?» avec Joël Magnin-Gonz, spécialiste de biologie végétale et auteur de l'ouvrage « Histoire de la botanique », un beau livre paru chez Delachaux et Niestlé avec de magnifiques illustrations car les herbiers et les dessins de plantes font aussi partie de la botanique. Alors on s'était arrêté avant les informations au XVIIe siècle et à la question de la sexualité des plantes, à celle de la classification. Écoutez la voix de Pierre-Henri Gouillon, professeur à l'Institut de systématique du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
À partir du XVIIe siècle, va arriver l'idée qu'on peut vraiment trouver une classification qui a un sens. On va créer des systèmes de classification. Et la création de ces systèmes, ça va donner naissance à une science qui s'appelle la systématique, et à un type de scientifique qui s'appelle les systématiciens, donc des gens qui produisent des systèmes permettant d'ordonner la diversité du vivant. Alors, le plus célèbre du XVIIIe siècle s'appelle Carl Linné, qui a classé les plantes en fonction de leur sexe. Alors c'était un peu scandaleux ce qu'il racontait, hein, parce qu'il présentait la fleur comme une chambre nuptiale dans laquelle une épousée allait épouser un nombre variable d'hommes. Et la classification de Linné, elle était bien gentille, mais elle avait un gros défaut, c'est qu'elle n'était pas naturelle. D'ailleurs, il en était lui-même conscient. En regardant bien les plantes, un certain nombre de naturalistes dès le XVIIe siècle, comme Tournefort, mais ça lui a repris doucement, puis surtout les Jussieu, vont commencer à se dire qu'il existe un ordre interne à la nature. Donc c'est ce qu'on va appeler des classifications naturelles. Et donc les gens vont chercher de plus en plus à faire des classifications naturelles, et pour ça, ben, on regarde les plantes et on les regarde en détail, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des structures internes qui sont extraordinairement conservées dans des groupes, qui nous amènent à relier des choses entre elles alors qu'elles n'auraient pas été au début. Tournefort, par exemple, au début, classait d'un côté les arbres et de l'autre côté les plantes plus basses, et ça c'est une classification qui ne tient pas, parce que quand on regarde la fleur de certains arbres fruitiers, ça ressemble plus à une rose, il y a la fleur d'un chêne. Donc, les arbres, ça n'existe pas comme catégorie. En revanche, on va pouvoir fabriquer une catégorie des rosacées, où il y a les roses et puis les pommiers.
Joël Magnin-Gonz, si on s'arrête un moment sur Carl von Linné, son importance est capitale. Quelle influence a-t-il exercé sur la botanique au XVIIIe siècle?
En fait, Charles Linné est arrivé après beaucoup d'autres botanistes. Et le problème, comme toujours dans l'histoire des sciences, c'est que on ne garde en mémoire qu'un nom, alors qu'avant, il y a beaucoup d'autres personnages qui ont préparé le terrain. Et en fait, ce personnage cristallise un tas de connaissances pour en faire une théorie, et on garde ce nom en mémoire. Néanmoins, Linné a énormément d'influence, puisque il a établi surtout une série de règles qui ont donné un cadre à la discipline. Il a également favorisé l'observation et l'expérimentation. Ce n'est pas le premier, mais il a répété la nécessité pour un bon botaniste de faire lui-même ses observations, ses expérimentations. Et il a étudié la botanique un petit peu comme un mathématicien. Hein, il a classé toutes les plantes, mais il a aussi classé les théories, il a classé les botanistes, il a classé tout ce qu'il pouvait. Et c'est grâce à cette classification et ce désir d'ordre qu'en fait la botanique est devenue une science moderne, parce qu'on a pu se baser après sur des règles bien spécifiques. Et à partir de là, la botanique a pu progresser dans une même voie.
Et est-ce que c'est grâce à lui qu'on nomme les plantes avec un nom trivial, un nom ordinaire et un nom savant?
Alors, c'est lui qui a établi, qui a officialisé cette nomenclature, mais Théophraste l'avait inventé avant lui. Jean Bohun et Gaspard Bohun utilisaient cette nomenclature binomiale bien avant lui. Hein. Donc, si vous voulez, l'importance de Linné, c'est surtout dans le fait qu'il a édicté des lois, ce qu'on appelle des aphorismes. Il avait édicté 365 aphorismes, un par jour, qu'il a répartis en 12 chapitres, autant qu'il y a de mois par année. Tout est codifié, tout a une signification dans les travaux de Linné. C'est peut-être pour ça qu'il est fascinant, mais on peut aussi penser que sans lui, quelqu'un d'autre aurait pu établir également des règles, mais il aurait fallu vraiment avoir un esprit particulièrement, passez-moi l'expression, mais obsédé par l'ordre pour arriver à cela. Mmh.
Et quelle est l'importance des Jussieu dont parlait Pierre-Henri Gouillon et qu'on connaît bien ici à Paris puisqu'ils ont donné leur nom à une université?
Eh bien, les Jussieu, en fait, c'est une dynastie, il y en a cinq. Ça a commencé par Antoine, puis son frère Bernard, etc. Et enfin, à la fin du XVIIIe, Antoine-Laurent de Jussieu, qui, en fait, est l'héritier de ce que ses oncles avaient fait avant lui et qui a qui a publié le premier système de classification naturelle moderne. En fait, John Ray l'avait fait un siècle avant.
Un Anglais,
dont on parle très peu dans le monde francophone, et pourtant c'était une sommité. Il avait déjà défini l'espèce à la fin du XVIIe siècle. Donc, tous les travaux de Ray ont été un petit peu oubliés, mais quand on réalise que, par exemple, Darwin a été Darwin parce qu'il connaissait les travaux de Ray et parce qu'il travaillait aussi sur les écrits de Théophraste. Donc, tous ces personnages ont apporté une petite pierre à l'édifice, et Linné, en fait, a été capable de cristalliser tout ça, de créer une théorie et des règles. Et en ça, il est essentiel. Néanmoins, comme le disait l'intervenant précédent, il a créé un système de classification qu'on dit essentialiste, artificiel, mais dans ses écrits, on voit qu'il dit bien qu'il faut un système de classification naturelle, que ce n'est que celui-là qui représentera correctement la réalité naturelle.
Alors, un autre personnage était intéressant dans cette histoire de la botanique absolument foisonnante, c'est Buffon, qui, le premier, a l'intuition de l'évolutionnisme. Il a dirigé le jardin des plantes, et c'est une sorte de passeur. Écoutez l'éclairage d'Yves Lessieux, ancien directeur de la bibliothèque centrale du Muséum d'Histoire Naturelle.
Il a su faire entrer au Jardin du Roi des gens dont il a pénétré quelquefois très en avance l'intelligence et l'esprit avant-gardiste. Par exemple, c'est lui qui a fait au moins favoriser l'ascension de la famille Jussieu. C'est lui qui a fait entrer Fourcroy, par exemple, qui était un très grand chimiste et le vulgarisateur de la méthode Lavoisier dans la France de l'Ancien Régime. Il a été le premier, sans doute, à deviner ce que le jeune Lamarck pouvait représenter comme génie biologique et d'autres. Ça, c'est son rôle de recruteur, si je puis dire. Et puis, s'appuyant sur l'institution qu'il dirigeait, et sur les expériences personnelles qu'il pouvait mener dans son domaine bourguignon, il a profité de tout cela pour développer ses propres conceptions. Alors, ses conceptions personnelles dans la fameuse histoire naturelle qu'il a occupée des années 1750 à sa mort.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Yves Lessieux sur Buffon. Je voudrais en retenir une, c'est les interactions, au fond, entre la botanique et la chimie. Là, il parle de Lavoisier. Dans votre livre, vous citez aussi l'importance des travaux de Newton, notamment de l'optique, pour comprendre l'importance de la lumière dans le développement des plantes. Ça, c'est aussi un angle d'approche intéressant de votre livre, Joëlle Magnin-Gonse.
Oui, je pense que c'est justement une des choses les plus intéressantes, c'est de voir que tout le développement des sciences dépend des progrès des autres disciplines. Et en l'occurrence, dans le cadre de l'histoire de la botanique, on perçoit très rapidement certaines choses, mais on est bloqué parce que la chimie n'est pas là pour en soutien. Par exemple, déjà au XVIIe siècle, on avait compris que la plante avait des échanges avec l'atmosphère, qu'elle opérait de la manière opposée aux animaux, mais on ne pouvait pas expliquer exactement ce qui se passait, et il a fallu attendre effectivement la chimie de Lavoisier en 1789 pour que, quelques dizaines d'années après, en fait, la photosynthèse soit découverte. Donc tout était là, on avait compris l'influence de la lumière, on avait compris qu'il y avait des échanges de gaz, mais il manquait les éléments chimiques pour décrire le phénomène de la photosynthèse.
Alors, un autre élément important pour comprendre cette histoire de la botanique, c'est le lien avec les voyages d'exploration qui sont très importants au XVIIIe siècle. On peut citer Bougainville, on peut citer Commerson et surtout Alexander von Humboldt qui a inventé la géographie botanique avec un autre savant qui s'appelle Candolle. Écoutez l'historien des sciences Jean-Marc Drouin.
Je crois que le point de la classification est intéressant parce que ça peut surprendre l'insistance que mettent Humboldt et de Candolle à dire, grâce à la classification naturelle, nous pouvons faire de la géographie botanique, puisque précisément la classification naturelle, pour le dire en un mot, c'est une classification élaborée en particulier par les Jussieu pour ce qui est des plantes, qui est fondée sur la morphologie. Et on ne prend pas en compte, par exemple, le fait qu'elles ont la même couleur, bien sûr, mais aussi qu'elles se trouvent dans le même pays. Donc le critère géographique n'est pas pris en compte dans la classification. Alors Humboldt, en plus de cette structure qui est parfois une structure cachée, s'intéresse aussi à l'aspect visuel, j'allais dire presque pictural, voire pittoresque au sens premier du mot, que un type de plante donne au paysage. Donc il y a un mélange chez Humboldt d'une sensibilité à la nature qui serait digne de Chateaubriand et d'une volonté de mathématisation comme Laplace.
Un commentaire, Joël Magnangons, sur l'importance de ces explorateurs et sur cette naissance de la géographie botanique.
Je pense que c'est essentiel. Essentiel que les botanistes sortent de leur bureau. Je vous ai expliqué que moi-même, maintenant, je quittais les livres pour faire beaucoup plus de terrain. Parce que, on le voit dans l'histoire de la botanique, les personnes qui ont fait des observations personnelles, sont ceux qui ont apporté le plus à la botanique. On n'a pas parlé de Michel Adanson tout à l'heure, mais voilà un personnage qui a passé 6 ans en Afrique, très jeune, et qui est revenu de là avec des idées tout à fait révolutionnaire quant à la manière de classer les végétaux. Et les Jussieu ont hérité des travaux d'Adanson. Hein, ils ont travaillé ensemble, d'ailleurs. Donc, je pense que tout botaniste se doit d'aller voir ce qui pousse ailleurs pour se faire une meilleure idée de la diversité du végétal et avoir une vue beaucoup plus claire et précise de l'ampleur de ce monde et de la manière de le classer ou de le comprendre. Voilà.
Et pour ne pas rester dans une vision trop franco-française de cette histoire, on peut aussi parler de l'importance des Italiens, des Allemands qui ont beaucoup contribué à cette discipline.
Absolument. Alors, je vous cacherai pas que moi, je ne suis pas française d'origine. J'ai vécu dans 3 pays différents et je me suis rendu compte d'une chose très rapidement en faisant des recherches documentaires que malheureusement, il y a toujours une littérature un peu nationaliste dans les historiens des sciences. Vous avez un ouvrage de Morton qui était publié dans les années 80 d'histoire de la botanique sur lequel je me suis pas mal basée, mais qui met en valeur essentiellement ou principalement des scientifiques anglais. Sachs, Julius Sachs, à la fin du 19e, parlait essentiellement de la botanique allemande. Et les Français, évidemment, avec David de Virville, tournent autour du 18e siècle. On sait très bien que le 18e siècle, la botanique était française. Mais le 19e siècle, la botanique est essentiellement germanique. Et tout à coup, dans les ouvrages francophones, on parle beaucoup moins de la botanique du 19e siècle. Donc si vous voulez, c'est normal, c'est tout à fait humain. On connaît, on parle de ce que l'on connaît. Hein. Et j'ai essayé justement, c'était le but de ce travail, c'était d'aller chercher des documents dans tous les pays européens. Qu'ils soient italiens, par exemple, parce que vous parlez de l'Italie. L'Italie, ben, la botanique, elle était italienne essentiellement au XVIe siècle. Après, on n'en parle plus beaucoup. Eh ben, c'est dommage, parce qu'il y a d'autres botanistes italiens qui ont apporté des choses dans les siècles qui ont suivi.
Voilà. Alors, il y a bien sûr une grande rupture épistémologique au XIXe siècle. C'est l'apparition en 1859 de L'origine des espèces de Charles Darwin. On va voir ce que ça change pour l'histoire de la botanique. On en parle juste après Émilie Simon, Fleur de saison sur RFI.
Dès les premières lueurs, oh, je sombre. Tout bien tout
Émilie Simon, fleur de saison sur RFI, on parle de l'histoire de la botanique. En 1859, Charles Darwin publie De l'origine des espèces. Qu'est-ce que ça change ? Réponse avec l'historien des sciences Jean-Marc Drouin.
La première chose que ça change, c'est une vision globale du vivant par rapport au non-vivant. Et à ce point de vue-là, il est frappant que l'origine des espèces de Darwin contienne à peu près 40%, ce n'est pas une statistique précise, c'est un chiffre intuitif, d'exemples botaniques pour 60% d'exemples zoologiques. Il y a un peu plus d'exemples zoologiques, mais les exemples botaniques sont vraiment très importants. Et certains d'entre eux ont été développés de près par Darwin. Et la métaphore du bricolage que François Jacob et Stéphane Jay Gould ont mis en valeur se trouve dans le texte sur les orchidées. Il y a un texte sur les orchidées, un texte sur la fécondation des fleurs, un texte sur les plantes grimpantes. Tous les dispositifs, en particulier liés à la reproduction de la plante, sont autant de points d'appui de la théorie de l'évolution, qui en retour apporte alors un changement. S'il fallait donner le résumé le plus bref, c'est que on a mis ensemble les plantes par famille pendant un siècle, avant d'attribuer ce lien de famille à un ancêtre commun.
Un commentaire, Joël Magnangos ?
J'aime beaucoup ce que Jean-Marc Drouin vient de dire, parce qu'effectivement, la notion de famille est née à la fin du XVIIe siècle. C'est Magnol qui a inventé ce terme. Avant même d'imaginer les répercussions philosophiques, déjà, de ce terme, parce que famille voulait dire parenté, ça voulait dire origine commune. Donc, transformisme, on était bien bien loin d'imaginer de pouvoir accepter ce genre de vision. Donc, comme dit Jean-Marc Drouin, Darwin est arrivé et a finalement, on sait une chose, c'est que Darwin, enfin, ou plutôt on l'ignore volontairement, c'est que Darwin est un grand botaniste. Il a fait des milliers d'expériences sur les plantes.
Par exemple,
il a étudié les résultats, par exemple, de l'autofécondation sur certaines espèces. Je peux plus vous dire exactement lesquelles, mais j'ai des tableaux. Il a publié des tableaux où on voit qu'il vérifie, il comptabilise le nombre de graines fertiles dans chaque gousse. Je me rappelle plus s'il a fait ça sur des légumineuses ou une autre famille, mais c'est ce genre-là. Et il montre que l'autofécondation est mauvaise, enfin néfaste pour le développement de la plante, et que en fait la nature fait tout pour qu'il y ait une fécondation croisée.
Et puis, oui, Jean-Marc Drouin le disait, il étudie les plantes grimpantes qui cherchent la lumière. Il étudie aussi les plantes insectivores qui vivent dans un environnement pauvre en matière nutritive. Et du coup, il compense de cette manière-là ?
Absolument. C'est pas anodin. Il n'étudie pas n'importe quel végétal. Il étudie des végétaux qui ont dû s'adapter à un milieu. Les plantes grimpantes, par définition, sont des plantes qui s'élèvent vers le ciel pour voir la lumière en évitant de devoir produire des tissus lignifiés. Les plantes insectivores, ce sont des plantes qui vivent dans des terrains très très pauvres et qui, pour combler justement le manque de substances nutritives, ont dû s'attaquer au métabolisme, enfin au catabolisme plutôt, des protéines animales. Donc ce sont des phénomènes adaptatifs et c'est pas pour rien. Ce sont des exemples justement qui vont permettre à Darwin juste d'étayer sa théorie de l'évolution et de l'adaptation des organismes au milieu, et donc une sélection naturelle qui va s'opérer de manière à valoriser certains individus plutôt que d'autres.
Alors la fin du 19e siècle, c'est aussi les débuts de la génétique avec les travaux de Mendel et de Vries. En quoi c'est important cette arrivée de la génétique pour l'histoire de la botanique ? C'est fondamental.
Une chose essentielle avant, c'est d'avoir compris un peu la biologie du végétal, c'est d'avoir compris que, et ça on n'en parle pas souvent, parce que malheureusement ce ne sont pas des francophones qui ont découvert ça, mais bien des germanophones, c'est l'alternance de générations. Et la découverte, c'est justement...
Hofmeister,
et oui, absolument, et puis Strasburger après. Donc Hofmeister est un personnage extraordinaire, un autodidacte qui a découvert en observant énormément de végétaux et surtout des plantes sans fleurs, qu'il y avait une alternance de générations chez tous les végétaux, une génération qui produisait des spores et une génération qui produisait des gamètes. L'importance de ces générations varie évidemment d'un groupe ou d'une classe de végétal à l'autre. Ce qui est important, c'est que quelques dizaines d'années plus tard, lorsqu'on a découvert les chromosomes et qu'on a la génétique s'est développée, eh bien Strasburger, donc un autre Allemand, a lui réalisé qu'en fait la génération, cette alternance génération correspondait à une alternance de contenu génétique, c'est-à-dire que la génération qui produit des gamètes, le gamétophyte est haploïde, tandis que la génération qui produit des spores.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous venez de dire ? Je suis pas sûre d'avoir tout compris.
Le gamétophyte, donc cette génération qui va produire des cellules sexuelles, ne contient qu'un seul lot de chromosomes. C'est lui qui est à l'origine donc des gamètes qui vont fusionner, former un œuf qui lui sera diploïde, qui va contenir deux lots de chromosomes et qui va, en se développant, former la génération diploïde, celle qui va former des spores, le sporophyte. Cette alternance de génération, elle en fait se retrouve chez tous les végétaux. Et ça, cette découverte est intéressante parce qu'elle a permis justement de comprendre que ce règne végétal fonctionnait de la même manière. C'était juste l'importance des générations qui variait, mais donc il fallait considérer les plantes sans fleurs et les plantes à fleurs de la même manière. C'est ainsi que, l'entier du règne végétal a été traité de la même manière. À la suite de ces découvertes.
Pour quelle raison arrêtez-vous cette histoire de la botanique, on va dire, au début du XXe siècle? Après, ça s'ultra-spécialise. Il n'y a plus de botanique au sens d'entité, de science unitaire?
Non, c'est simplement parce que toutes les disciplines de la botanique se sont installées. Elles sont là, au début du XXe siècle. Et après, l'histoire n'est plus l'histoire de la botanique, c'est l'histoire de la physiologie végétale, c'est l'histoire de la géobotanique, c'est l'histoire de la phytosociologie, c'est l'histoire de la paléobotanique, etc.
L'étude des pollens.
Voilà. Alors, vous connaissez peut-être Monsieur Durand, qui est un spécialiste des ombellifères, et avec qui un jour j'ai discuté, et qui m'a dit, Madame Magnin, il serait temps de vous attaquer au XXe siècle. Il me l'a dit sans rire. Nous avons discuté un moment, et puis quand il est sorti de mon bureau, il a rencontré un de mes collègues et il m'a dit « Tu vas avoir la paix pendant 50 ans maintenant. » Et là, elle a du travail sur la planche. Donc, c'est pour vous dire que s'attaquer à l'histoire de la biologie végétale et de faire l'histoire de chacune des disciplines, il faut être spécialiste déjà de chacune des disciplines pour percevoir l'importance des progrès.
Alors, en attendant de vous attaquer à ce XXe siècle, Joël Magnin-Gonz, vous êtes sorti de votre bibliothèque et vous êtes retourné sur le terrain. Que faites-vous sur le terrain?
Oui, quand je peux, je vais sur le terrain. Nous avons entamé un travail d'inventaire de la flore vaudoise dans le cadre du Cercle vaudois de botanique.
Donc en Suisse?
En Suisse, voilà. Le canton de Vaud est un canton assez important. Donc, on pense environ 2000 espèces, on n'en est pas encore sûr. Mais le dernier catalogue date de 1882, donc vous voyez, à l'époque de la découverte des chromosomes. Depuis, eh bien, 130 ans, on peut imaginer que plus de 30 à 40% des espèces ont disparu.
Et elles ont disparu du fait de la présence humaine ?
Oui, essentiellement. La présence humaine, la population qui augmente, le bétonnage, malheureusement, l'irrigation, l'impact des cultures également sur le paysage.
Vous me disiez tout
paysage.
À l'heure qu'on ne voit plus d'insectes sur les pare-brises des voitures, et que ça, c'est un signe.
C'est un signe, oui, parce que effectivement, la diversité végétale provoque, enfin le manque, l'érosion de la biodiversité végétale provoque évidemment une érosion de la biodiversité entomologique, mais aussi ornithologique, etc.
Pour tous les passionnés de botanique, on peut aller sur le terrain comme vous, Joël Magnin-Gonz. On peut aussi lire votre passionnante histoire de la botanique avec de très très belles illustrations publiées chez Delachaux et Niestlé. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et à Gwen Michel pour les archives de l'INA. À la semaine prochaine.
En sol majeur.